Radio Barque, contre-regard sur l'actualité narbonnaise. Radio Barque, notre 14e de cette 4e saison. Bonjour Michel.
Bonjour Jean-Claude.
Bonjour Nicolas Saint-Cluc.
Bonjour Jean-Claude.
Alors Nicolas Saint-Cluc, on vous présente plus parce que vous commencez à être un habitué de cette émission, mais quand même, je rappelle succinctement que vous êtes élu municipal, donc conseiller socialiste d'opposition. Vous êtes également conseiller départemental. Là, vous êtes dans la majorité départementale socialiste. Et puis vous êtes aussi élu communautaire, donc au Grand Narbonne. Donc ce qui fait un certain nombre de responsabilités. Et puis vous êtes, si je puis dire, dans le civil, entre guillemets, porte-parole de l'association J'aime Narbonne. Et qui va également, je pense, occuper une partie de l'interview que nous ferons en troisième partie. Alors Michel, notre sommaire pour cette 14e, tu vas commencer par le Racing, ce fameux Racing qui fait encore parler de lui. Bon, et puis c'est pas fini d'ailleurs. Après quoi, on sera sur un sujet un peu plus général, le vieillissement et l'aménagement du territoire.
Oui, qui nous concerne directement.
Et ses répercussions, bien entendu, sur notre région. En deuxième partie, nous parlerons de déserts médicaux. On reste un petit peu, un peu dans le sujet, toute proportion gardée. Et nous finirons par une élection qui a fait couler de l'encre à au Grand Narbonne, à l'agglomération, celle de Monsieur Pi, soutenu par, à la fois par son groupe d'Henri Martin, mais aussi par, on peut dire, par Jacques Bascou et son groupe.
Oui, puisqu'il a fait une conférence de presse dans laquelle il a dit qu'effectivement c'était son candidat.
Voilà. Donc les choses étaient claires, au moins de ce point de vue-là. Et même si toi, Michel, tu t'attendais peut-être à autre chose, voilà. Non. Alors commençons par ce Racing qui, encore une fois, connaît des déboires et n'arrive pas à s'en sortir.
Oui, Jean-Claude. Hein. Jean-Claude, il pleut toujours où c'est mouillé. Tu connais ce proverbe.
Sûr,
et c'est vrai que, aujourd'hui d'ailleurs, il tombe des cordes. Et Narbonne ne cesse de recevoir sur sa tête, si je puis dire, en tout cas le Racing, des rafales de points comme jamais ce club n'en a jamais connu dans son histoire, en fait, pourtant longue et particulièrement glorieuse.
Des gros déboires, il y en a eu quand même il y a 10 ans.
J'ai fait l'addition du nombre de points encaissés depuis le début de la saison, alors, Jean-Claude. C'est un record historique. J'insistais sur ce point-là. Jamais nous n'avons pris autant de points dans l'histoire que depuis cette dernière saison qui est sous la conduite, je parle du Racing et de cette saison, d'un bloc d'actionnaires narbonnais qui, on s'en souvient peut-être, a repris le Racing à un club d'actionnaires australien, et au motif que ce club d'actionnaires australien allait mener le Racing vraiment dans le gouffre, dans les affres,
de la
Fédérale 2. Quoi.
Cela dit, le club, ils l'ont repris dans un piteux état, il faut quand même le dire.
Financier, sans doute.
Mais la finance, au bout du compte, c'est ce qui finit par...
Je n'en disconviens pas, sauf que je me souviens très bien du bloc d'actionnaires narbonnais et le président du Racing qui a été nommé par lui, faisant valoir en début de saison que, avec eux, c'était le top 14 qui était visé pour que le Racing enfin soit au niveau où il n'aurait jamais dû effectivement
descendre. Ils auraient peut-être dû être plus discrets.
Cela dit, 41 points à domicile face à l'Ajax. Je peux te dire que le lendemain, comme je le fais tous les jours, je déambulais dans les halles de Narbonne. C'est quasiment notre cathédrale.
Après ça, devenait un cimetière.
Je peux te dire qu'après cette humiliation, cet outrage, à la dignité d'un club, c'est vrai, au très riche passé sportif et à l'arrogante quand même mémoire, j'en dirai deux mots, autour des tonneaux qui commentent tous les après-matchs, les mines étaient grises et conséquemment, et pour le plus grand bonheur des bistrotiers, les blancs, si je puis dire, eux, tombaient nombreux. Donc, au fond du trou, moral dans les chaussettes, esprit déboussolé, le dimanche d'ailleurs, quand je suis retourné dans les halles, je peux te dire que les supporters les plus motivés avaient là, du coup, la gueule de bois, quoi. Hein. Alors, vous savez que, constatant ça, j'ai encore le souvenir de l'époque où le Racing jouait ses matchs à Cassaillé, les tribunes étaient en bois, je me souviens que
là,
quand...
Comme disait le petit Charles, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans, etc.
Je ne dirai
etc.
pas mon âge, mais vos auditeurs le savent, je pense quand même déjà. Mais c'est vrai que bon, ces tribunes grondaient parce qu'effectivement, on assistait à des matchs et c'était fantastique.
Ah oui,
et Narbonne brillait au firmament du rugby national. Et comme dit Léo Ferré, bon, avec le temps, tout s'en va, y compris même ces souvenirs qui pourtant, bon, sont encore présents à ma mémoire, contrairement à ce que dit Ferré. Cela dit aussi, je note, enfin, quand même, Jean-Claude, que, après ce match, j'ai lu des phrases et des mots alors dans les communiqués de Nouveau-Narbonne et dans l'interview dernière de Bernard Archila, le président du Racing, qui sont d'un pathétique qui quand même bon montre bien que nos dirigeants, que ce soit les élus politiques comme les élus du club, ne sont plus effectivement dans le rugby de notre temps. J'ai entendu des mots comme notre club mythique. Hein, notre club, la légende du rugby, où nos joueurs doivent mouiller leur maillot, en fait. L'honneur du club, en fait, est en jeu. Bref, des accents, en fait, qui font référence, bon, à une époque qui n'est plus et qui ne sera plus, hein. Comme si, en fait, on avait affaire maintenant, aujourd'hui, à un 15 du Racing, dont les joueurs, de par leur statut, de par leur origine, de par leur profession, étaient liés par un attachement viscéral, en fait, affectif, aussi profond qu'il le fut dans le passé.
Oui, bon, c'est absurde. Ça, on sait que c'est terminé,
alors,
bien sûr.
Mais qu'on en tire des conclusions et qu'on retire surtout de ces phrases, en fait, ces mots-là, légende, en fait, mythique, en fait, mouiller le maillot, en fait,
oui,
honneur.
Encore.
Tout cela dans le monde du rugby professionnel, malheureusement, Jean-Claude, je suis bien obligé de le constater, comme beaucoup de monde, n'a plus lieu d'être. Les joueurs qui viennent aujourd'hui de tous les coins du monde, en fait, à Narbonne,
viennent
pour d'autres raisons que pour l'honneur du maillot, si je puis dire.
Oui, cela dit, l'expression « mouiller le maillot » a quand même, me semble-t-il, encore une vertu. Souvent, on accuse des gars de venir empocher un salaire, et excuse-moi la vulgarité, de ne pas se bouger le cul sur le terrain.
Mais ça, c'est une autre question. C'est une question de responsabilité professionnel,
comme toi
à ta radio, ou comme moi quand j'étais aux affaires, si je puis dire.
Oui, alors, Nicolas,
moi personnellement, je me sens pas outragé ou indigné, je n'utiliserai pas ces mots aussi forts, mais c'est vrai qu'il y a une blessure. Il y a une blessure. Beaucoup de gens disaient on pleure notre Racing, mais il faut quand même voir qu'aujourd'hui, c'est la formation, c'est du professionnalisme. Et le professionnalisme, a ses limites. A ses limites, parce qu'effectivement, on parle de budget, on parle de finances.
Il n'y a plus l'esprit
d'équipe, il n'y a plus l'esprit de la ville, de la défense de la ville et du blason. Mais je pense qu'il faut revenir à la formation. C'est-à-dire, je pense que c'est par la formation, par faire en sorte qu'on ait aussi un quota de joueurs par le club qui forme les joueurs, qu'on puisse avoir des professionnels de notre formation, issus de notre formation, qui peut-être changera les choses.
Voilà,
peut-être
qu'il
faut les changer aussi au niveau national, c'est-à-dire qu'il y ait un quota de joueurs par ville qui soient formés dans les clubs, qui sont issus des clubs, pour aussi avoir cet esprit-là.
Voilà. Oui, voilà. Et peut-être que là, on reviendra à un certain chauvinisme au bon sens
du
terme.
Mais il faut du temps.
Voilà,
mais
bien
faut
entendu.
Je vous laisse rêver tous les deux à cet avenir auquel je ne crois seule seconde. Mais passons.
Nous ne rêvons pas.
il faut être optimiste et c'est avec le rêve et en défendant ces utopies qu'on arrive à changer les choses.
Oui, non, mais les règles et les lois, ça se change. Ça peut se changer.
Tout à fait.
Voilà. Bon. Deuxième sujet, alors, le vieillissement, non pas du Racing, mais de la population générale, encore que pour le Racing, ça serait un débat peut-être à mener. Alors, tu as fait un billet là-dessus sur des statistiques qui sortent et qui démontrent un certain nombre de phénomènes connus déjà, mais confirmés.
Oui, mais ce qui n'est pas sans rapport d'ailleurs avec ce que j'ai chroniqué précédemment. C'est vrai que nous sommes dans une région qui aussi vieillit, mais je vais y revenir. Et elle vieillit sur tous les plans, le plan économique, sur le plan social, sur le plan de l'imaginaire. Mais bon, Revenons à cette chronique que je voudrais très rapidement brosser et qui nous concerne directement. La France vieillit, tout le monde le sait, ou devrait le savoir, encore que, souvent dans la presse, on fait valoir que la France, par rapport aux autres pays européens, aurait une démographie beaucoup plus importante et donc beaucoup plus favorable. Ouais. Sauf que, on dit aussi,
la Chine vieillit.
Jean-Claude, s'il te plaît, ne coupe pas le fil de ma pensée.
Sauf que,
c'est pas vrai. La France, comme tous les pays européens, relativement voit sa population vieillir. Et en France en particulier, la part des plus de 65 ans dans la population totale a augmenté de 4 points depuis 1990. On est passé de 14% de la population à 18%, 4 points. Et dans les espaces qui nous intéressent, dans les zones géographiques qui nous intéressent nous directement, c'est-à-dire dans les espaces littoraux, méditerranéens, Côte d'Azur, etc., l'augmentation est encore plus importante, 2,7% en moyenne entre 2008 et 2013. Pourquoi ?
C'est bien connu qu'on aime prendre sa retraite au soleil.
Pas que. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il y a d'abord un solde migratoire positif, contrairement à d'autres régions françaises, et qu'à ce solde migratoire positif s'ajoute effectivement l'arrivée de personnes à l'approche de leur retraite. Par exemple, 24% des personnes qui ont entre 60 et 64 ans y ont aménagé contre 14% en frais. La conséquence, c'est que ces personnes âgées à retraite, il faut les prendre en charge. Et là, il y a trois processus, trois méthodes. Il y a la solidarité familiale, qui a ses limites, et il y a la solidarité collective à travers ce qu'on appelle les établissements destinés aux personnes.
Les fameux EHPAD.
Sauf que dans notre région en particulier,
on en manque.
On a un taux de couverture qui est parmi les plus faibles, effectivement, de France.
Voilà, un beau paradoxe.
Ça, c'est une première remarque. Alors, d'ailleurs, entre parenthèses, tous ces EPA sont en tension aujourd'hui, et à un point tel, d'ailleurs, que le gouvernement vient d'ouvrir une ligne de crédit de 50 millions d'euros pour pouvoir, effectivement, répondre aux besoins de ceux qui sont dans les plus grandes difficultés. Mais, indépendamment de ce manque de structure collective, Jean-Claude, je constate qu'aucune réflexion et donc aucune stratégie en direction de ces populations n'est effectivement clairement posée par les collectivités qui ont la compétence qui devrait effectivement permettre de résoudre un certain nombre de problèmes. Pourquoi ? Parce que ces personnes âgées, souvent habitent dans des maisons isolées effectivement du centre-ville, et arrivées effectivement à un certain âge, elles n'ont plus effectivement des possibilités de déplacement, etc. Ce qui pose le problème de l'isolement de ces personnes. Et je constate effectivement que les communes, les collectivités les plus impliquées dans ce genre d'affaires, qui ont la compétence, urbanisme et transport, la commune principalement et l'agglo n'ont aucune, aujourd'hui à ma connaissance en tout cas, stratégie en direction de ce type de population qui augmenteront de plus en plus au fil des années et qui implique effectivement des stratégies en matière d'urbanisme et de transport qui relèvent de leurs compétences. C'est un message que je adresse à M. Saint-Occlus qui est aussi conseiller communautaire, mais à nos collectivités de manière générale.
Voilà, et on marque une première pause en constatant hélas qu'on en manque et qui semble qu'on va en manquer encore pendant un certain temps.